Alors nous étudions ensemble le livre de Ésaïe depuis quelques dimanches. Ésaïe est un livre majeur, incontournable de l'Ancien Testament. Mais c'est vrai, un grand livre comme Ésaïe, avec ses 66 chapitres, pourrait nous faire peur. C'est pourquoi plusieurs ont appliqué ce proverbe au livre. Comment manger un éléphant? Mais une bouchée à la fois. Et ce que nous faisons dimanche après dimanche. Alors ce matin, la bouchée va être un peu grande parce que nous allons faire deux chapitres, 7 et 8. Mais n'ayez pas peur. La plupart des passages, des textes en Ésaïe, c'est vrai, c'est un message, un discours, une prédication du prophète qui annonce le jugement ou bien qui annonce la grâce de Dieu. Mais dans le livre d'Ésaïe, nous trouvons aussi quelques passages qui nous racontent l'histoire de l'époque et qui nous aident à comprendre les personnages, les rois, les enjeux de l'époque. Et ce matin, c'est ce que nous allons faire. Il y a ce passage devant nous, 7 et 8, concerne l'histoire des rois, des personnages. Et ce matin, vous aurez droit à une bonne dose de prénoms bibliques, de noms bibliques. Peut-être des noms que vous n'avez jamais entendu parler. Mais pour ne pas vous perdre ou vous faire peur, parce que c'est des noms que vous n'avez pas l'habitude d'utiliser pour nommer vos enfants, j'aimerais lister les personnages qui font partie de l'histoire aujourd'hui. Comme ça, on ne se perd pas lorsque nous lisons cette histoire. Un peu comme au début d'un livre ou une scène de théâtre, vous avez les noms des personnages, les acteurs. Et voilà des personnes que nous allons rencontrer aujourd'hui. Il y a Akaz, ça va, un des personnages principaux, c'est le roi de Juda, le petit royaume du sud. Ensuite, il y a Retsin, c'est le roi de Syrie. Il y a aussi Pekah, c'est le roi d'Israël, le royaume du nord. Ensuite, il n'est pas nommé, mais on en parle, c'est Tiglath-Pileser, le 3. Lui, c'est le roi d'Assyrie. Ensuite, il y a Ésaïe, le prophète, que vous commencez à connaître. Et là, attention, il y a Sheer-Jashub et Maher-Shalal-Shashbaz. Désolé, mais ces noms vont jouer un rôle important dans notre histoire, donc je ne peux pas les écarter comme ça. C'est le prénom le plus long de la Bible. Alors, c'est vrai, si vous cherchez un prénom intéressant, Maher-Shalal-Shashbaz, mais bon, ça c'est les fils d'Ésaïe, deux fils d'Ésaïe, et puis un que vous connaissez peut-être un peu mieux, qui vous est plus familier, Emmanuel, un enfant qui apparaît dans notre lecture. Alors, avec ces personnages en tête, gardez-les, vous pouvez dire, oh non, à l'église ce matin, on nous a fait un cours d'histoire de géo. Mais en fait, c'est important de faire un peu d'histoire de géo quand on étudie la Bible. Et d'ailleurs, la Bible, notre Bible, notre texte saint, est beaucoup de l'histoire géo parce que c'est ça qui donne une réalité à notre foi. Notre foi s'appuie sur des choses concrètes, des histoires réelles, des personnages qui ont vraiment vécu et qui ont vécu des choses avec Dieu. Et l'interaction ce matin de tous ces personnages va nous amener à poser une question. En quoi, en qui placer notre confiance ? Notamment quand on a peur, lorsque les temps sont incertains et instables, en qui placer notre confiance? Voilà ce que Akaz va devoir apprendre et ce qu'il ne va pas apprendre. Mais espérons que nous, le peuple de Dieu, nous pouvons apprendre cette leçon. En qui, en quoi placer notre confiance? Dans les solutions humaines ou en Dieu fidèle? Donc commençons la lecture maintenant en Ésaïe chapitre 7. Ésaïe chapitre 7, où nous allons commencer à découvrir ces personnages et comment ils ont vécu leur époque. Ésaïe 7. Il arriva du temps d'Akaz, fils de Jotan, fils d'Ozias, roi de Juda, que Retsin, roi de Syrie, monta avec Pekah, fils de Remalia, roi d'Israël, contre Jérusalem pour l'assiéger. Mais il ne put l'assiéger. On vient dire à la maison de David, les Syriens campent en Éphraïm, ça c'est le royaume du nord, et le cœur d'Akaz et le cœur de son peuple furent agités, comme les arbres de la forêt sont agités par le vent. Alors l'Éternel dit à Ésaïe, va à la rencontre d'Akaz, toi et Sheer-Jashub, ton fils, vers l'extrémité de l'aqueduc de l'étang supérieur, sur la route du champ du Foulon. Et dis-lui, sois tranquille, ne crains rien, que ton cœur ne s'alarme pas, devant ces deux bouts de tison fumant, devant la colère de Retsin et de la Syrie et du fils de Remalia, de ce que la Syrie médite du mal contre toi, de ce qu'Éphraïm et le fils de Remalia disent, montons contre Juda, assiégeons la ville et battons-la en brèche, et proclamez-y pour roi le fils de Tabil. Ainsi parle le Seigneur et l'Éternel. Cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. car Damas est la tête de la Syrie, et Rétine est la tête de Damas, encore 65 ans, Éphraïm ne sera plus un peuple. La Samarie est la tête d'Éphraïm, et le fils de Remalia est la tête de la Samarie. Si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette lecture? Eh bien, le roi d'Israël, le royaume du Nord, Samarie, tout ça, il s'allie avec le roi de Syrie, Dama, pour assiéger Jérusalem. Et donc, ensemble, ces deux royaumes, ils veulent déposer Akaz, ils veulent mettre fin à la dynastie de David, et mettre un autre roi qui les arrange. Donc, deux royaumes s'allient ensemble contre Juda. Et là, Akaz a très peur, parce qu'on veut enlever lui, renverser son royaume. Et c'est pour ça qu'on vient de lui dire qu'il y a toute la Syrie qui est avec Éphraïm, c'est-à-dire le royaume du Nord, et ils viennent t'assiéger. Alors le verset 2 dit qu'il est son cœur s'agite comme les arbres de la forêt sont agités par le vent. Alors, vous voyez cette peur, cette agitation. Et on comprend en quelque sorte que c'est normal, deux royaumes, chacun plus grand que le sien, s'allient ensemble pour l'assiéger. Alors, Dieu envoie Ésaïe et son fils, nous allons parler un peu de lui plus tard, Ésaïe et son fils viennent à la rencontre de Akaz, et le verset 3 dit qu'ils se retrouvent vers l'extrémité de l'aqueduc de l'étang supérieur. Alors, l'aqueduc, c'est toujours un lieu très important lorsqu'une ville est assiégée, parce que c'est... Pendant un siège, c'est l'alimentation en eau qui va être déterminant pour remporter le siège ou pas. Donc, cet aqueduc, certainement, Akaz est là, en train de réfléchir, de s'agiter, de comment je vais faire pour alimenter ma ville en eau. Et donc, Ésaïe vient le rencontrer là, cet aqueduc, avec ce message de la part de Dieu. Et vous l'avez dans les versets 4 et suivants, le prophète dit « Sois tranquille ». Ne fais rien, ne crains rien, que ton cœur ne s'alarme pas. Verset 4. Et le message en substance de Ésaïe, c'est dans peu de temps, ces deux menaces, ces deux rois, ces deux royaumes qui s'allient aujourd'hui contre toi, dans peu de temps, ils ne seront plus. Il les appelle deux bouts de tison fumant. Hein, deux brindilles, ils sont fumants, mais ça va s'éteindre bientôt. Ne t'inquiète pas, Akaz. Il parle de Damas. Damas, c'est la capitale de la Syrie. Il parle de Samarie, c'est une manière de parler du royaume du Nord. Dans peu de temps, ils n'existeront plus. Alors ne t'inquiète pas. Et il termine son appel avec cette phrase clé ce matin. Si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. C'est vraiment l'appel du prophète envers Akaz et son peuple. Si vous croyez, vous allez tenir ferme. Tout va bien se passer. Si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. J'aime bien, comme disait traduit une autre Bible, vous ne pourrez tenir bon qu'en vous tenant au Seigneur. Vous ne pourrez tenir bon qu'en vous tenant au Seigneur. Ça, c'est ce qu'on appelle Akaz à faire devant ces menaces. Mais Akaz refuse la voie de la foi en Dieu, de la confiance. Et nous savons, d'après d'autres textes bibliques, qu'il se confie dans une autre solution. Il se confie dans l'Assyrie. Et c'est là où il faut un peu de géographie. Il y a donc, vous connaissez Jérusalem, la ville de Jérusalem, un bord un peu au nord-est, il y a Samarie, capitale du royaume du Nord. Encore un peu au nord-est, c'est Dama, capitale de la Syrie. Encore un peu au nord-est, il y a Ninive, capitale de la Syrie. Et encore un peu loin, c'est Babylone, qui n'est pas encore un acteur majeur, mais voici les différentes capitales de différents royaumes qui entrent dans cette histoire d'Ésaïe. Et donc, la solution d'Akaz, embêté par deux royaumes, Dama et Samarie, la Syrie et Israël du Nord, il va aller chercher de l'aide à l'Assyrie, Ninive, Tisgath-Pileser. Et Deux Rois, chapitre 16, vous pouvez lire ces histoires, je les résume, mais il envoie de l'argent à Tiglath-Pileser, le roi de la Syrie, pour l'aider. Alors, pour se situer un peu, je me dis, ce serait un peu comme un petit pays comme le Luxembourg, craignant une invasion de l'Allemagne et de la Belgique, aille demander de l'aide auprès de la Russie. Donc, c'est un peu la même situation géographique pour vous aider à comprendre. Mais en tout cas, vous voyez la peur qui finalement est une peur incrédule d'Akaz, le pousse à placer sa confiance ailleurs qu'en Dieu. Et il va pousser les choses encore plus loin. Il va aller chercher même des idoles dans la maison de Dama, dans les temples de Dama syriens, et les faire venir à lui, pensant que voilà, la Syrie a pu m'aider, parce que dans un premier temps, ça a marché. La Syrie est intervenue, et ils ont attaqué les royaumes qui embêtaient Juda, et dans un premier temps, ça a marché. Mais vous voyez cette peur d'Akaz d'avoir cherché la solution en Assyrie, une nation païenne. Avec, ils pensaient, voilà, eux, ils ont la force militaire, ils ont la technologie, ils peuvent me dépanner. Cette peur l'appelle à placer sa confiance ailleurs qu'en Dieu. Et c'est ça, c'est une leçon pour nous. Nos peurs révèlent souvent où nous plaçons notre confiance. Si j'ai très, très, très peur de la situation politique, jusqu'à m'agiter, m'angoisser, c'est que quelque part, je place ma confiance, je considère que le salut se trouve dans la politique. Si j'ai très très peur de ce que les autres pensent de moi, bien quelque part, je place ma confiance dans le regard des autres. Si j'ai très 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 peur de rester célibataire, quelque part, je place ma confiance dans le mariage. Et certaines de ces peurs sont fondées, mais qu'est-ce qu'on fait de ces peurs et comment elles agissent sur nos actions? Si on agit sur ces peurs-là, sans s'attendre à Dieu, sans chercher sa volonté, sans tenir à lui, comme Esaïe avait appelé Akaz à faire, eh bien, ça nous pousse à faire des mauvaises décisions. Cette peur incrédule d'Akaz l'a poussé à chercher à faire une mauvaise décision en plaçant sa confiance dans l'Assyrie. Parce que le choix de l'Assyrie comme solution, c'était le mauvais pari. La Syrie n'était pas l'ami qu'ils espéraient. C'est vrai que la Syrie a géré la Syrie et le royaume du Nord, Israël. Mais après, la Syrie s'est retournée contre Juda. Parce que la Syrie avait une seule ambition, c'était dominer le monde. Et donc vous avez dans notre texte un peu plus tard, en chapitre 8, verset 6, je vous montre juste ça, avant de revenir à 7, mais 8, 6... L'Éternel me parle encore et me dit, « Parce que ce peuple a méprisé les eaux de Siloé, en Juda, qui coulent doucement et qui s'est réjoui au sujet de Ritsin et du fils de Remalia, renversé par la Syrie, voici le Seigneur va faire monter contre eux les puissantes et grandes eaux du fleuve, c'est-à-dire le roi d'Assyrie et toute sa gloire. Il s'élèvera par-dessus au-dessus de son lit et se répandra sur toutes ses rives. Il pénétrera dans Juda, il débordera et inondera, il atteindra jusqu'au cou. » Le déploiement de ses ailes, il remplira l'étendue de ton pays, Emmanuel. Donc, l'image de ce déluge, mais la Syrie est venue et finalement a inondé, en quelque sorte, le pays pour assiéger Jérusalem. Ça s'est passé au temps du fils d'Akaz, qui s'appelle Ézéchias. Et Ézéchias s'est retrouvé exactement dans la même situation que son père. Jérusalem assiégée, cette fois, non par la Syrie, mais par la Syrie. Le verset dit que l'inondation, les eaux vont monter jusqu'au cou. Et c'était vrai que la Syrie avait envahi tout le pays. Il ne restait que Jérusalem qui tenait ferme. Et Ézéchias s'est retrouvé dans cette même situation. Ce qui est intéressant, c'est que Ézéchias, contrairement à son père Akaz, lui, il a placé sa confiance en Dieu. Et vous avez l'histoire en chapitre 37 et 38, 36 et 37. D'ailleurs, c'est intéressant que tout se déroule exactement au même lieu, sur l'aqueduc, près du champ du Foulon. C'est là où se trouve Ézéchias devant les armées assyriennes. Et à ce moment, lui, il place sa confiance en Dieu. Ce qui est une belle histoire, contrairement à Akaz. Le petit bémol, c'est que Ézéchias, lui, il a sympathisé avec les Babyloniens en pensant que eux, ils pouvaient le protéger contre l'Assyrie. Donc, Akaz, malheureusement, va chercher un peu l'amitié en la Syrie pour le protéger contre la Syrie. Et Ézéchias, malheureusement, va chercher en Babylone une solution contre la Syrie. Donc, vous voyez, souvent, nous, les hommes, on cherche, on place notre confiance dans les solutions impressionnantes humaines au lieu de les placer en Dieu. Mais cette histoire, le prophète Ésaïe, tout au long du livre, va nous montrer que la solution contre la menace syrienne n'est pas la Syrie. Et la solution contre la menace assyrienne n'est pas Babylone. Et nous faisons souvent comme eux. Tout au long de notre vie, cette question va se poser. En quoi, en qui placer ma confiance? Notamment quand j'ai peur, ou quand je veux réussir mon avenir, ou quand mon avenir semble incertain, ou quand je suis agité, angoissé par telle ou telle chose. En quoi, en qui placer ma confiance? Souvent, on est attiré par la toute dernière technologie, ou le dernier cri de la mode, ou même les églises, parfois la dernière astuce, la dernière méthode pour faire grandir une église. Et quand ça ne marche pas, la solution n'est de pas passer au suivant, au dernier cri, pour être encore déçu. Mais souvent, c'est ce que nous faisons. Donc la peur incrédule nous pousse souvent à prendre des mauvaises décisions et à placer notre confiance, si nous plaçons notre confiance ailleurs qu'en Dieu. Mais Dieu va aider Akaz, quand même Dieu aime Akaz, on a parlé d'Akaz et sa peur incrédule. Maintenant, dans la suite, il veut aider Akaz à vivre cette foi, à manifester cette foi, cette confiance en lui. Donc nous allons lire maintenant chapitre 7, versets 10 à 16. Voyez comment Dieu va aider Akaz à la foi. Alors l'Éternel parla de nouveau à Akaz et lui dit, « Demande en ta faveur un signe à l'Éternel ton Dieu. Demande-le, soit dans les lieux bas, soit dans les lieux élevés. » Akaz répondit, « Je ne demanderai rien, je ne tenterai pas l'Éternel. » Ésaïe dit alors, « Écoutez donc, maison de David, est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des hommes, que vous lassiez encore celle de mon Dieu ?» C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la Vierge deviendra enceinte. Elle enfantera un fils. Elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Il mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Mais avant que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, le pays dont tu crains les deux rois sera abandonné. Nous avons vu Akaz avec cette peur incrédule. Nous allons voir maintenant Emmanuel, un signe pour susciter la foi. Vous voyez ce que Dieu propose à Akaz, c'est fort. Il dit, demande-moi un signe. Si tu as du mal à croire que ces deux pays vont bientôt disparaître, demande un signe. Ça peut être un très grand signe, aussi haut que les cieux, aussi bas que la terre. Souvent, quand nous exigeons un signe de la part de Dieu, il me faut un signe pour croire en toi, c'est une expression de l'incrédulité. Mais quand Dieu propose un signe, et pour fortifier, susciter notre foi, c'est pas de le tenter que d'accepter, mais Akaz, avec cette, sous une apparence de piété, non, je tenterai pas l'Éternel, je veux pas de signe, ça montre qu'il a déjà fait le choix dans son cœur de ne pas croire en Dieu. Alors Dieu dit, ok, moi-même, je vais te donner un signe pour susciter ta foi ou pour rendre ton incrédulité inexcusable. Ce signe va agir pour susciter la foi ou rendre l'incrédulité inexcusable. Et donc là, vous avez le fameux signe. Quel est le signe que Dieu donne à Akaz et à toute la maison de David, de ce qu'il est un Dieu digne de confiance? Quel est ce signe? Eh bien, c'est le fameux signe d'Emmanuel. Ce passage cité souvent à Noël. La Vierge deviendra enceinte et elle enfantera un fils. Elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Et c'est là où ça complique un peu dans notre compréhension, notre manière d'interpréter les Écritures. Nous savons que ce verset est cité dans l'Évangile de Matthieu pour parler de Jésus. Mais en quoi c'était un signe pour Akaz et son époque? Et puis comment le Nouveau Testament, l'Évangile de Matthieu, peut s'appuyer sur ce texte pour parler de Jésus? On va essayer de comprendre ça, hein, ça donnera l'occasion de mieux comprendre les prophéties en général de l'Ancien Testament. Si on lit normalement ces versets, d'après ce verset 14 notamment, on dit qu'une jeune fille non mariée, le mot hébreu peut vouloir simplement dire une jeune fille à l'âge de se marier, une jeune fille non mariée aura un enfant, et cet enfant, a priori, il va naître dans des temps difficiles, mais tout en ayant un régime de roi. C'est intéressant, on dit en verset 15, il mangera de la crème et du miel. C'est des bons produits, mais plus tard, vers le même chapitre, verset 22, on dit qu'à cause des temps troubles, à cause de l'invasion, de cette instabilité politique tout dans le pays, il y aura une telle abondance, verset 22, qu'on en mangera de la crème, car c'est de la crème et du miel que se nourriront tous ceux qui sont restés dans le pays. Donc, il y aura tellement, beaucoup vont partir en situation de réfugiés, d'exil, qu'il y aura une abondance de certains produits, non pas parce qu'il y a une richesse, mais parce qu'il y a une abondance du pays. Donc cet enfant va manger un régime royal tout en vivant des temps de pauvreté, des temps difficiles. Mais comme veut dire son nom, Emmanuel, Dieu est avec nous, comme veut dire son nom, la preuve que Dieu est avec eux, c'est qu'avant qu'il grandisse de beaucoup, la date est un peu floue, mais avant que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, avant qu'il grandisse de beaucoup, la menace des deux rois sera complètement écartée, oubliée. Comme dit verset 16, le pays dont tu crains les deux rois sera abandonné. Et c'est vrai que, d'après l'histoire, 3 ans après ces événements dont on parle ici, la ville de Dama est tombée, et 13 ans plus tard, la ville de Samarie est tombée. Les Assyriens ont pillé et emporté les richesses de Dama et de Samarie. Donc, en peu de temps, après que Ésaïe parle, donc le temps qu'un enfant grandit, les choses sur le plan politique, géopolitique, sont arrivées, de sorte que Syrie et Israël n'étaient plus une menace pour Juda. Et quand on lit un peu plus tard, maintenant nous allons au chapitre 8, verset 1 à 4, ça ressemble un peu, on pourrait dire que cet enfant, peut-être c'est l'enfant qui va apparaître dans les versets que je vais vous lire maintenant. Chapitre 8, verset 1, l'Éternel me dit à Ésaïe, « Prends une grande table, écrit dessus d'une manière intelligible, qu'on se hâte de piller, qu'on se précipite sur le butin. Je prie avec moi des témoins dignes de foi, le sacrificateur Uri et Zacharie, fils de Berica. Je m'étais approché de la prophétesse, elle conçut et elle enfanta un fils. L'Éternel me dit, donne-lui pour nom Maher Shalal Shashbaz, voilà. Car avant que l'enfant sache dire mon père, ma mère, on emportera devant le roi d'Assyrie les richesses de Dama et le butin de Samarie. Donc, Maher Shalal Shashbaz veut dire qu'on se hâte de piller. Et donc, cet enfant, né, et avant qu'il soit grandi de beaucoup, son nom, comme son nom indique, on va piller et emporter des richesses de Samarie et de Dama. Et certains pensent que peut-être cet enfant-là correspond à l'enfant en chapitre 7, même s'il y a quelques difficultés à faire accorder les deux. En tout cas, les noms des enfants d'Ésaïe, que ce soit Sheher Japud que nous avons rencontré début du chapitre 7, ou Maher Shalal Shaspaj, ou encore cet Emmanuel, tous ces noms sont des signes pour susciter la foi. Sheher Jashub, ça veut dire un reste reviendra. Emmanuel, ça veut dire Dieu est avec nous. Donc quand on pense à ces enfants, ces fils, déjà à l'époque de Akaz, on pouvait savoir qu'il y avait des promesses qui se réalisaient. On pouvait être rappelé que nous allons bientôt être délivrés des puissances qui nous menacent aujourd'hui. Et quand ces choses sont arrivées, effectivement, 3, 5, 10 ans plus tard, le peuple, en voyant ses enfants, il y avait peut-être un Emmanuel qui courait par là, ou en tout cas le Maher Shalal Shashbaz qui passait par là, on pouvait dire, ah oui, Ésaïe nous avait dit ces choses sont arrivées, donc Dieu est digne de confiance. La prochaine fois que nous avons peur, nous n'allons pas placer notre confiance dans des hommes, la Syrie ou autre, nous allons placer en Dieu. La preuve est que ces enfants sont là et ils vivent selon leur prénom. Mais il semble que cette prophétie dépasse juste un simple enfant qui naît à Tonda d'Akaz. Et comme nous allons découvrir tout au long de ce livre, les prophéties d'Ésaïe, tout en ayant un sens pour les contemporains d'Ésaïe, elles ont une portée lointaine dans l'accomplissement du grand plan du salut de Dieu qui nous concerne aussi. Et visiblement, déjà, ce signe pour Akaz dépasse son époque. Il y a des éléments, même dans ce que Dieu dit, qui nous font croire qu'il y a quelque chose de grand et d'atemporel. Il y a déjà, Dieu avait proposé lui-même un signe grandiose. Il dit, demande-moi un signe aussi grand que les cieux, aussi grand que la terre. Et Akaz a dit non, alors Dieu dit, ok, c'est moi qui vais faire le signe. Et quand Dieu fait un signe, il ne fait pas un simple signe, il va faire quelque chose de grandiose. Alors le simple fait, une simple naissance d'un enfant, ce n'est pas un signe grandiose en soi. Ensuite, il y a quand même cette idée que la Vierge deviendra enceinte. Le mot hébreu peut dire jeune fille mariée, mais le mot hébreu peut aussi vouloir dire vierge, fille qui n'a pas eu de relations sexuelles. Et quand des traducteurs juifs l'ont traduit en grec bien avant Jésus-Christ, ils l'ont traduit avec un mot grec qui veut dire vraiment vierge. la Vierge deviendra enceinte. Ça, ça commence à être vraiment un signe miraculeux. Et puis, on a déjà lu ce verset en 8, verset 8, mais on dit, quand l'Assyrie et la menace pénètrent dans le pays, il remplira l'étendue de ton pays, ô Emmanuel. Intéressant qu'Emmanuel revient dans ce verset. Et là, on parle du pays d'Emmanuel. Comme quoi cet Emmanuel est le représentant ou le roi de tout le pays. Et il est associé à la maison de David, le Juda. Donc vous voyez, ces éléments du signe nous obligent à dire il y a des choses qui sont accomplies pour Akaz, mais il y a des choses qui ont dépassé le temps d'Akaz. C'est pourquoi Matthieu, inspiré par le Saint-Esprit, n'a pas tort de voir un plein accomplissement en Jésus, en Christ. C'est vrai qu'en Jésus, Dieu a vraiment accompli un signe dans les lieux élevés et dans les lieux bas. Justement, Emmanuel relie les yeux élevés et les lieux bas, puisque Dieu devient homme. Et c'est vrai que Jésus, lui aussi, est vraiment, littéralement, né d'une vierge, la Vierge Marie, avant d'avoir épousé Joseph. C'est vrai que Jésus est né dans la pauvreté, il était roi aussi, donc il a relié royauté et pauvreté, comme cet enfant Emmanuel. Et c'est que en Jésus, vraiment, que nous pouvons dire, Dieu est avec nous. Dans un sens, Dieu est avec nous tous, tout le temps. Depuis la création, Dieu est partout. Mais en Jésus-Christ, puisque Dieu s'incarne et marche avec nous, là, c'est complètement, pleinement le cas que Dieu est avec nous, Emmanuel. C'est pour que ça, ce signe d'Emmanuel, c'est encore le meilleur signe pour susciter notre foi et pour vous encourager aujourd'hui à placer votre confiance en Dieu. Ou bien pour rendre votre incrédulité inexcusable, puisque Dieu, qu'est-ce que Dieu peut faire de plus que de venir lui-même dans notre monde, en Jésus-Christ, prouver son amour par tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a dit, et surtout par cette mort sur la croix, et ensuite une résurrection. Quel signe peut-il donner de plus pour ceux qui veulent connaître si Dieu existe, si Dieu m'aime, si Dieu est là? Eh bien, le signe, c'est Emmanuel. Dieu est digne de confiance parce qu'en Jésus, il nous a rejoints dans nos détresses, dans nos agitations, dans nos angoisses. Et il s'est débarrassé de nos ennemis. Akaz avait des ennemis, c'est de la Syrie, mais il y a des ennemis encore plus graves pour nous. C'est le péché, c'est la mort, c'est Satan. Et Jésus s'est débarrassé de ses ennemis, de sorte que on est libre. Vous voyez, vous êtes d'accord? Quelle que soit la situation que vous traversez en ce moment, la situation qui vous fait peur, qui vous angoisse, qui vous agite. Si vous êtes convaincu que Dieu est vraiment avec vous pour vous protéger, pour vous aimer, pour vous défendre, vous serez confiant, vous serez stable dans la vie, vous serez ferme. Si vous étiez convaincu que Dieu était vraiment avec vous, eh bien il est par ce signe d'Emmanuel. C'est pour ça, comme cette parole en chapitre 8, verset 10, qui s'adresse aux ennemis du peuple de Dieu, nous pouvons le dire nous aussi, puisque nous avons Jésus, nous avons Emmanuel, nous avons Dieu avec nous. Verset 10, formez des projets, ils seront anéantis. Donnez des ordres, ils seront aussi sans effet, car Dieu est avec nous. Vous pouvez vous faire face à vos peurs et vos ennemis avec cette confiance. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et je sais que Dieu est pour nous parce que Emmanuel est né, il est mort, il est ressuscité pour moi. Ça, c'est le signe qui veut susciter la foi. Akaz pouvait accepter ce signe. Malheureusement, il a rejeté et a continué dans une voie incrédule. Par contre, nous avons Ésaïe qui va nous montrer une crainte confiante en Dieu. Nous pouvons lire maintenant les versets suivants, chapitre 8, versets 11 à 18. Donc il y avait la peur incrédule d'Akaz face à la menace syrienne. Ensuite il y avait ce signe d'Emmanuel pour susciter sa foi. Maintenant il y a Ésaïe qui voit son peuple choisir l'incrédulité. Et lui va agir autrement. Verset 11, chapitre 8. Ainsi m'a parlé l'Éternel quand sa main me saisit et qu'il m'avertit de ne pas marcher dans la voie de ce peuple. N'appelez pas conjuration tout ce que ce peuple appelle conjuration ou conspiration. Ne craignez pas ce qui craint, et ne soyez pas effrayés. C'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier. C'est lui que vous devez craindre et redouter. Et il sera un sanctuaire, mais aussi une pierre d'achoppement, un rocher de scandale pour les deux maisons d'Israël, un filet et un piège pour les habitants de Jérusalem. Plusieurs trébucheront, ils tomberont et se briseront, ils seront enlacés et pris. Enveloppe cet oracle, scelle cette révélation par mes disciples. Verset 17, Ésaïe qui dit « J'espère en l'Éternel, qui cache sa face à la maison de Jacob, mais je place en lui ma confiance. Voici, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes des signes et des présages en Israël, de la part de Dieu, l'Éternel des armées, qui habite sur la montagne de Sion. Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? À la loi et au témoignage? Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. » Akaz nous a montré cette peur incrédule qui pousse à des mauvaises décisions en plaçant notre confiance dans des solutions humaines. Mais Ésaïe, c'est le contraire. Il nous montre ce qu'on peut appeler ce matin la crainte confiante. C'est le contraire de la peur incrédule, c'est la crainte confiante. Vous trouvez peut-être bizarre de dire que la solution à la peur des hommes, c'est la crainte de Dieu. Mais c'est le cas que nous allons découvrir dans ces versets. C'est ce que dit Ésaïe en versets 13, 12 et 13. Il dit « Ne craignez pas ce que le peuple craint. Ne soyez pas effrayés des choses qui effraient le peuple. C'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier. C'est lui que vous devez craindre. » Voyez, selon Ésaïe, la solution à la crainte des hommes, la peur des hommes, c'est la crainte de Dieu. J'aime bien ce qu'a dit quelqu'un. « Si vous craignez Dieu, vous n'aurez peur de rien d'autre. Mais sans la crainte de Dieu, vous aurez peur de tout. Si vous craignez Dieu, vous n'aurez peur de rien d'autre. Mais sans la crainte de Dieu, vous aurez peur de tout. » En fait, la crainte de Dieu, nous découvrons dans ce passage et dans toute la Bible, ce n'est pas une peur de Dieu, c'est plutôt une peur de vivre sans Dieu. La crainte de Dieu, c'est une peur sainte d'avoir Dieu comme ennemi, comme juge, et pas comme ami, comme père, comme défenseur, comme refuge. C'est pour ça que craindre Dieu, c'est trouver en lui notre sanctuaire, notre refuge. Et là, c'est une belle image. Et c'est Ésaïe qui les relie. C'est lui, c'est Dieu que vous devez craindre et il sera un sanctuaire, verset 14. Mais si ce n'est pas Dieu que vous allez craindre, il va devenir pour vous une pierre d'achoppement, un rocher de scandale. Et vous allez craindre tout le reste. Ne craignez pas ce que les autres craignent. Ne soyez pas effrayés de ce que effraie le monde. Et ce sera le cas si votre foi est en Dieu et ses promesses. On peut constater encore plus aujourd'hui que jamais qu'on aime bien être alarmiste. Je crois que les médias seraient déçus s'il n'y avait pas un sujet paniquant en permanence. Alors je vous dis ce matin, ne craignez pas le réchauffement climatique. Ne craignez pas tel ou tel parti politique. Ne craignez pas telle réforme de retraite. Toutes ces questions, tous ces sujets méritent la réflexion et des solutions. Mais ne craignez pas ces choses, surtout si vous n'avez pas réglé cette question de l'éternité. Il faut craigner Dieu, il faut craigner de passer l'éternité loin de Dieu, ce que la Bible appelle enfer. Voilà ce qu'il faut craindre avant de craindre tout le reste. Mais si cette crainte-là, de vivre loin de Dieu est réglé par la confiance en Emmanuel Sauveur, le reste ne devient pas si effrayant que ça. Oui, peut-être il y a un réchauffement, des légères variations de 1 degré. Mais qu'est-ce au vu de l'éternité lorsque notre sort est garanti? Dans un nouveau monde refait à neuf, le rêve des écologistes va se réaliser en Ésaïe, mais en passant par la foi et la confiance en Dieu et son jugement contre tout mal et tout péché. L'apôtre Pierre va appliquer ce même verset à nous chrétiens face à un monde qui se moque de notre foi, qui persécute des fois les chrétiens. Même Pierre, il ose dire, ne craignez pas les hommes ne craignez pas ceux qui persécutent l'Église. Au contraire, sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur. Et là, vous aurez un témoignage dans votre entourage, vous aurez une réponse à donner à ceux qui vivent dans l'effraiement, la peur de l'avenir. Vous pouvez dire, voilà, moi j'ai pas peur de ces choses parce que je connais le Sauveur. Et Ésaïe lui-même, ce que je trouve beau, verset 17, encore un verset clé ce matin, « J'espère en l'Éternel, qui même s'il cache sa face à la maison de Jacob, je vais placer en lui ma confiance. » Ésaïe peut regarder l'avenir, un avenir qui sait va être difficile et douloureux pour son peuple. Mais même cet avenir difficile, il peut regarder cet avenir avec confiance. Il sait que Dieu, des fois, semble cacher sa face à son peuple, mais il va lui faire confiance. Et il dit, voici moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés. C'est vrai que l'Éternel lui a donné, en tout cas, ses deux fils. Et le nom qu'il a donné à ses deux fils est déjà une expression de sa confiance en Dieu. Un reste reviendra. Le premier fils s'appelait. Le deuxième fils, on va piller les ennemis. Donc déjà, ses fils, comme il dit, nous sommes des signes, des présages en Israël. Ésaïe, son nom veut dire l'Éternel sauve. Et donc, déjà, Ésaïe et ses fils sont des signes de la fidélité de Dieu. Le nom qu'il donne à ses enfants est une expression de sa confiance en Dieu. Même qui sait que le pays va passer par un temps de ténèbres, le pays ne va pas écouter cette loi, ce témoignage de Dieu, le pays ne va pas connaître l'aurore tout de suite, il va passer par un jugement, un exil. Mais il annonce une bonne nouvelle à la fin du chapitre 8. Les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, mais bientôt, un jour, la lumière va briller, de la Galilée notamment. Et en chapitre 9, il poursuit ces thèmes que nous entendons souvent à Noël. Encore un enfant qui va naître, le même Emmanuel finalement. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Donner à l'Empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Donc ça a commencé avec la dynastie de David menacée, on voulait le renverser ce royaume. Et là, on terminait avec cette promesse que ce royaume ne connaîtra jamais de fin grâce à ce descendant, cet Emmanuel, cet enfant qui nous est né. C'est en lui que nous pouvons placer notre confiance encore ce matin. Alors je vous laisse avec cette dernière question de... Dans la peur, dans les choses qui vous agitent et vous tracassent, vous angoissent aujourd'hui, où plaçons notre confiance? Est-ce que nous le plaçons dans les hommes? La puissance impressionnante mais éphémère de l'homme, que ce soit militaire, politique ou financière, ou physique, ou romantique? Ou est-ce que nous le plaçons dans le Dieu qui est avec nous? Emmanuel, prions. Seigneur, c'est vrai, ce matin nous avons fait un peu d'histoire géo et... J'espère que ces prénoms et ces détails ne nous ont pas effrayés ou perdu le fil, mais nous te remercions de ce que dans ces histoires, tu t'es manifesté. Déjà, un Dieu proche, un Dieu qui parle, tu l'as fait par Ésaïe. Tu as appelé ce peuple à la foi, à la confiance, à ce que toi-même tu allais gérer ses ennemis. Ils n'avaient pas redouté. Mais des fois, nous n'arrivons pas à saisir ces promesses, Tu restes un Dieu invisible, donc nous cherchons des solutions visibles devant nous. Mais ces solutions souvent se retournent contre nous. Et nous te demandons, pardon, de mettre en doute ta parole. Nous te remercions encore ce matin que nous avons la ferme conviction que tu es avec nous, puisque tu l'as prouvé, tu l'as montré en Jésus-Christ qui est venu, qui est né, qui a donné sa vie pour nous, pour gérer, pour nous débarrasser de nos ennemis. Et maintenant, nous pouvons vivre. Nous savons que nous serons avec toi pour l'éternité. C'est ça qui nous rassure. Quoi qu'il nous arrive dans la semaine, ou dans le mois, ou dans l'année, ou dans la vie, nous savons que rien ne peut nous enlever cette promesse, que tu es avec nous, nous sommes avec toi, et cela pour l'éternité. Fais de nous un peuple confiant, qui croit dans tes promesses, et qui tienne bon, qui tienne ferme à tout moment. Nous te remercions au nom de Jésus-Christ. Amen.